Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation, le dernier vendredi du mois, Guy Le Polarski au micro. Vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec un membre éminent de cette association, Hervé Delouche. Hervé qui est avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour. Hervé, bonjour, tu nous entends ?
Je suis là et je vous dis bonjour.
Voilà, merci Hervé d'être fidèle à notre rendez-vous. Au sommaire aujourd'hui, pour ce Variation noire de novembre 2019, un auteur qui trace un chemin bien à lui dans les méandres du roman noir, Pascal Dessin, lauréat, rappelons-le, ici à Arras en 2015 du prix Jean-Amilin Mecker pour Le chemin s'arrêtera là. Alors pour Pascal Dessin, effectivement, le chemin continue, et c'est tant mieux puisqu'il vient nous donner un nouveau roman au titre toujours subtilement sombre, L'horizon qui nous manque, aux éditions Rivage. Et puis nous parcourrons le dernier numéro en date, le numéro 134 de la revue 813. Oui, Hervé, donc Pascal Dessin, alors disons-le tout de suite, Pascal Dessin est un ami ici de l'association Colère du Présent, puisqu'il est prêt, enfin il a été présent à plusieurs reprises au Salon du Livre du 1er mai à Reims, il a obtenu le prix Jean-Amilin Mecker, je l'ai déjà signalé, il fait partie maintenant du jury du prix Amilin Mecker, donc c'est quelqu'un ici à Arras que l'on croise depuis de nombreuses années. Pour l'édition 2019, il était en résidence, il a réalisé une exposition qui a été présentée le 1er mai. Alors je sais que pour 813, c'est aussi, en particulier pour toi Hervé, Pascal Dessin est aussi un ami que tu croises depuis de nombreuses années, et en plus tu as un lien professionnel avec lui puisque tu es correcteur de métier et tu corriges notamment donc les ouvrages de Pascal Dessin.
Oui, tu as excellemment résumé la chose. Ça fait depuis au moins une douzaine de livres que je corrige de Pascal Dessin pour les éditions Rivage. Oui, Pascal, il était par ailleurs le lien avec 813 en dehors du fait qu'il en est un adhérent depuis longtemps. Il avait obtenu le trophée 813 pour mourir, mais peut-être pas la pire des choses. On l'a eu aussi, je crois pas dire de bêtises, sur le plateau de cette radio en public le 1er mai de cette année, parce qu'il y avait un focus sur la maison d'édition petite par sa taille,
c'est vrai,
au superbe livre le Petit Écart dans laquelle il est impliqué, dans laquelle il a publié La Trace du Héron. Il y avait avec à côté de texte de Patrick Péchereau, Marin Ledin et Jean Rouault et bientôt Romain Slocombe. Enfin voilà, Pascal Dessin, c'est quelqu'un qui de toute façon fait partie au premier plan du paysage du roman noir français depuis on dira une vingtaine d'années.
Ah oui, au moins, voilà, facilement.
Facile, hein. Au moins.
Quand on regarde la liste de ses ouvrages, il en est quasiment une petite trentaine de romans publiés.
Ah ben complètement. Et donc il y a avec aussi une place tout à fait particulière et qu'il faut dire d'entrée de jeu. Je pense que le livre dont on parle là, L'horizon qui nous manque, va nous permettre d'en parler. Mais c'est que Pascal Dessin, il est Il est, je pense, le premier à avoir réellement, non pas uniquement placé la nature comme partie prenante de ses romans, mais de lui avoir donné une place importante, mais aussi sur les traces d'un Américain comme Edouard Abeille, que je sais, vous savez, celui qui a écrit Le Gang de la Clé à Molette et plein d'autres livres excellents. Pascal Dessin, il est inspiré à la fois par le nature writing, mais il a également mis les problématiques environnementales, écologiques, au centre de ses romans, qui pour autant sont de vrais romans noirs, de vrais romans profonds, qui ne sacrifient pas du tout à une cause quelconque.
Oui, c'est bien que tu abordes cet aspect du travail de Pascal Dessin par le côté nature writing, écrivain de la nature, enfin qui met en scène, enfin qui donne une place importante à la nature, parce que parfois il est catalogué de manière un petit peu, je pense, réductrice d'écrivain de polar écolo. C'est plus que ça. Alors bien entendu, connaissant Pascal Dessin, on sait qu'il a un attachement aux questions environnementales, mais on est pour moi plus dans le nature writing que dans du roman engagé sur le terrain environnemental.
Ben absolument, c'est absolument pas, et que ceux qui n'ont jamais lu Pascal Dessin se rassurent tout de suite, ça n'est absolument pas des romans manifestes, des romans tracts, des romans. Ce qui est important, c'est que, comme chez les meilleurs écrivains américains, ceux que publie Gallmeister ou des gens comme Rick Bass, etc., de ce courant littéraire, la nature y est très présente comme. Voilà, comme dans une espèce de panthéisme, mais les humains, ils sont très présents et leur interaction avec la nature est importante, et les questions que tout cela pose, et évidemment les questions que pose une certaine industrialisation sauvage, voilà. Mais à chaque fois, Pascal Dessin construit des histoires qui sont à la fois, à mon avis, tendres et violentes, qui sont noires mais pas désespérées, et en même temps, il a aussi, et ça on l'avait vu déjà, on le voit depuis toujours, mais ce lien profond entre ces diverses composantes, je crois qu'il était apparu très clairement avec Les Derniers Jours d'un Homme, qui était un drame familial autour du désastre social de la fermeture de Metal Europe, Nord-Pas-de-Calais, et en même temps, ce désastre en cachait un autre, sanitaire et environnemental.
Bien sûr.
Et la volonté de Pascal Dessin, qu'on retrouve complètement dans un livre comme L'Horizon qui nous manque, c'est de donner la parole à des gens un peu méprisés, un peu oubliés, un peu mis sur le côté, un peu laissés pour compte de la société. On peut penser que c'est le cas d'un côté d'Anatole qu'on trouve dans ce roman, ou de Loïc, évidemment, qui a eu des ennuis avec la justice. Et puis on va reparler de sa narratrice, Lucille. Mais il parle de ces gens-là, il est complètement dans la ligne du grand roman noir américain des années 25-30, quoi, voilà.
Alors, avant d'en arriver,
effectivement... Tu es d'accord avec moi.
Bien sûr. Donc, avant d'en arriver au trio, Loïc, Anatole, Lucille, qui composent les personnages qui composent ce dernier roman, nous en parlions, Hervé, en préparant cette émission. Alors, c'est jamais simple de parler d'un auteur qui est aussi un ami, quelqu'un qui... Voilà, que l'on croise depuis un certain nombre d'années, avec lequel on partage aussi des moments de convivialité, sympathique, on rigole, etc.
Festif, même parfois.
Voilà, festif. Je cherchais le mot. En plus, bon, Pascal Dessin est quelqu'un qui est originaire de Dunkerque, donc c'est un carnavaleux, donc c'est quelqu'un qui connaît la fête, même s'il vit depuis depuis de nombreuses années maintenant à Toulouse. Il revient régulièrement dans la région. Il a toujours sa famille. Et donc, c'est vrai que c'est pas évident de faire la part des choses entre l'ami, le camarade de moments festifs et puis l'auteur. Et moi, à chaque fois, je suis quand même surpris. Et là encore, en lisant ce dernier roman, bon, j'étais embarqué et impressionné, quoi, par les capacités, hein, Pascal Dessin, de créer comme ça son monde, ses fictions. Et j'ai vraiment l'impression que, en fin de compte, il y a deux Pascal Dessin. Il y a celui qu'on côtoie dans les salons, dans les festivals, avec qui on rigole. Et puis, il y a l'auteur qui est un auteur à part entière, Hervé. Je sais pas comment tu ressens les choses.
Toi. Oui, je ressens ça comme toi. C'est le... Mais voilà, il y a... c'est là où les livres amènent un certain dépassement et où on découvre une autre facette. Pascal Dessin, il fait partie de ces écrivains qu'on aime fréquenter beaucoup et qu'on aime lire beaucoup. Ça, c'est bien parce que des fois les deux ne vont pas ensemble.
C'est ça, tout à fait. C'est ce que je voulais dire. C'est une belle formule. Et donc, on va parler de son dernier livre, L'horizon qui nous manque. Donc, comme je le disais en introduction, à nouveau un titre subtilement sombre. Les titres des romans de Pascal Dessin sont quand même sont importants. Hein. La vie n'est pas une punition. À trop courber l'échine. Du bruit sous le silence. Mourir n'est peut-être pas la pire des choses. Tu l'as dit, Trophée 813.
Maintenant le mal est fait,
Les derniers jours d'un homme, tu l'as cité aussi, le chemin s'arrête
là. Un homme doit mourir. Je sais que ça n'est pas toujours le cas, mais je sais que c'est Pascal qui choisit ses titres, et parce qu'il y a des auteurs, on peut écrire de très bons livres et pas avoir de très bonnes idées de titres. C'est lui, et je sais qu'il y met un soin tout particulier. Les titres eux-mêmes ont évidemment une poésie, mais ont un sens également par rapport au propos du livre sur lequel ils sont marqués, quoi.
Alors donc, trois personnages, nous l'avons dit, qui vivent à la marge, entre Gravelines et Calais. Donc on est dans le Pas-de-Calais, nord de la France, en bord de mer, un espace qui mêle le côté sauvage au côté industriel, puisque on n'est pas loin d'un port qui est en reconstruction. Donc ça, c'est un environnement que connaît très bien Pascal Dessin. Et donc ces trois personnages qui vivent à la marge, chez Anatole, retraité, qui est passionné par les canards, la chasse aux canards, mais aussi les chlorophytum, je ne sais pas trop comment on prononce ce nom de plante.
On va dire ça parce que je ne serai pas plus doué que toi.
On demandera à Pascal Dessin comment il prononce ce nom de plante, qui vit dans un chalet caravane. C'est un ancien vendeur de frites, hein. Il avait sa baraque, sa friterie, la baraque de frites, ancien chauffeur livreur, donc qui a choisi de vivre sa retraite un peu à l'écart, dans les dunes, à proximité de la mer. Il a accueilli, Anatole, une jeune femme, Lucille, qui était apparemment enseignante, institutrice, très engagée auprès des migrants de Calais, de la jungle à Calais, et qui a coupé les ponts avec sa famille et puis avec son métier, trop emporté par cet engagement. Puis enfin un troisième personnage qui arrive, un repris de justice en cavale, Loïc, qui va d'ailleurs s'installer dans l'ancienne baraque à frites d'Anatole, voilà, pour composer un trio très très différent et à la marge, donc je l'ai déjà dit, mais qui crée une forme de solidarité intergénérationnelle, homme-femme, et avec la particularité que Pascal Dessin a choisi de se mettre dans la peau de Lucille, donc de la femme.
Je lirai bien quelques lignes justement. Puisque c'est Lucille qui raconte, et là elle parle d'elle. J'avais même cru vaincre à moi seule toute la misère de la terre. J'avais claqué la porte de l'éducation nationale et rejoint cette ONG qui, entre autres missions, se donnait celle de dispenser des cours de français. Je ne m'en étais pas tenue à ce rôle, et un jour, je m'étais assise au milieu de tous ces visages qui m'étaient étrangement familiers, des toiles de tente qui gonflaient sous le vent, des arbres abîmés, des détritus agglutinés à la boue piétinée et de beaucoup d'espoir malgré tout. Je n'avais plus bougé. Quelqu'un m'avait posé une main sur l'épaule et je m'étais mise à pleurer. « Ça fera 50 euros par mois. Je m'appelle Lucille, j'ai 26 ans et je suis fatiguée de vivre. » Et comme tu le disais, on avait déjà évidemment des personnages de femmes, de jeunes femmes étaient déjà... apparu dans des romans précédents de Pascal Dessin. Je me souviens de Mona, par exemple, dans ce roman choral qui était le chemin s'arrêtera là, qui a eu le prix à Mila Mecker. Il y en avait aussi dans le maintenant le mal est fait. Mais là, c'est un là Pascal délibérément fait de c'est Lucille qui raconte cette histoire. Avec en plus comme un plan resserré, puisque de toute façon, ce lieu, ce petit univers, la caravane, le mobilhome, la baraque à frites, cet endroit près de la mer, ce que tu as très bien dit, ce que Pascal Dessin s'est campé, mais alors à merveille, c'est-à-dire un bout de nature avec un bout de paysage industriel sur le déclin, enfin, c'est vraiment de très belles images, c'est fort. Et dans ce tout petit endroit autour de ces trois personnages, même si un ou deux autres vont intervenir dans le récit, Lucille, je trouve que c'est vraiment une prouesse très réussie d'avoir fait qu'elle porte ainsi tout le roman avec beaucoup de véracité, d'authenticité. Elle est très incarnée en fait.
Tout à fait. Bon, ça doit pas être évident, et donc ça montre encore une fois la qualité de l'auteur, de l'écrivain, de se mettre comme ça dans la peau d'une femme. Et tu l'as dit, c'est très réussi. Et j'ai eu des retours très positifs de lectrices aussi. On oublie complètement que c'est un homme qui se met dans la peau de cette femme. C'est voilà, on rentre dans l'histoire par les yeux de Lucille, et c'est vraiment très très réussi. En fait, pour moi, ce roman, il montre que Pascal Dessin est vraiment capable. Bon, il se met dans la peau d'une femme, il se met dans la peau d'un repris de justice, d'un retraité. Mais bon, on l'a dit, il décrit admirablement la nature, et en particulier cette côte du Pas-de-Calais avec des marées énormes, des moments donc où la mer, on la voit même. On ne la voit pas, hein, même quand on est sur la plage. Il décrit bien sûr admirablement la nature animale, les oiseaux. On sait que c'est un passionné d'oiseaux, Pascal Dessin. Mais aussi, et c'est sans doute lié à ses origines, je trouve qu'il décrit admirablement le monde du travail, en l'occurrence ici, chantier de travaux publics, avec Loïc qui conduit donc une machine, une broyeuse, une immense machine broyeuse concasseuse, et là c'est vraiment aussi très 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 puissant. Donc en fin de compte, il s'adapte à toutes les situations, à tous les décors,
à tous les il est capable de parler effectivement d'un passionné de la nature, des oiseaux, et voilà, d'incarner un personnage écologiste, etc., et en même temps de décrire, comme tu le dis, un grutier dans le monde de, dans le monde du travail industriel, d'évoquer en quelques lignes un supermarché et ses caissières, enfin bon, c'est...
des chasseurs, voilà,
c'est
des chasseurs.
Extrêmement sensible à tout cela, et est capable d'en rendre, de rendre la sensation, et ça, et sans non plus jamais aller, évidemment, on avait dit, il évite absolument tout manichéisme, mais il évite aussi toute, comment dire, toute sensiblerie. Voilà.
Oui, tout à fait.
C'est vraiment très.
Et même par rapport aux policiers, aux flics, hein, qui interviennent dans ce roman, il n'est pas dans la caricature en fin de compte.
Non plus.
Même s'il
plus,
a, bon, il a toujours.
Compris, voilà, l'histoire, on va pas en dire plus, mais enfin, la personne avec qui se bâtit un peu d'histoire de ce policier n'est pas non plus la plus évidente pour un rapport de ce type, mais tout à fait, tout ça, et les personnages, évidemment que nous nous attachons à Lucille, à Anatole, à Loïc, ce trio dont la cohabitation n'est pas non plus de tout repos, mais en même temps, ils ne sont pas des gentils au milieu d'un monde hostile, c'est
voilà.
Beaucoup plus subtil que ça, et...
Oui, mais ça ne l'empêche pas de glisser quand même des phrases du type « J'avais souvent été choqué par le comportement des policiers », donc c'est Lucie qui parle. Il y avait aussi la sale manière avec laquelle, ici ou là, les citoyens étaient désormais traités sur les ZAD ou dans les manifestations. Il y avait eu la mort de Rémi Fraisse et tant de gars amochés depuis. Mais c'est vraiment, encore une fois, subtil, je trouve, la manière dont il parle de ça. Bon, et puis Hervé, de jolie.
Je suis d'accord avec toi. Je voudrais aussi dire quand même une dernière chose, parce que ça amène aussi des choses assez, assez drôles, assez savoureuses. C'est qu'il y a glissé à l'intérieur du livre, il y a un hommage à un cinéma cher à Pascal et à un acteur qui est Jean Gabin. Et je crois que c'est Anatole qui glisse de temps en temps dans ses répliques, justement une phrase ou une formule de Gabin pêché dans des films plus ou moins célèbres, mais je sais qu'à un moment il réplique quelques mots sortis de En cas de malheur, le film de Autant Lara. Adapté d'un roman de Georges Simenon, on reste dans le roman noir.
Oui, et puis il y a même une complicité autour de ce Jean Gabin pour les trois personnages qui s'y mettent. Hein, effectivement, Anatole au départ, mais Lucille et Loïc s'y mettent aussi. Et donc oui, je disais aussi de très belles formules. Hein, Pascal Dessin a écrit Loïc, c'était ce qu'on faisait de mieux dans le pire. Et je pense que c'est vraiment un résumé du personnage, mais en fin de compte, quelque part même du roman lui-même, Hervé.
Oui.
Alors, donc, une petite dernière chose, tu parlais de Jean Gabin qui a une place importante, il y a d'autres fils rouges dans le Jean Gabin bourru et généreux, qui colle bien aussi à l'image de Anatole. Il y a d'autres fils rouges dans ce livre, et je vous laisse en découvrir un dans un instant.
Moi je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours, et déjà quelques mirages me disent de faire demi-tour. La fée des neiges me suit tapant sur son tambour. Les fantômes du syndicat des marchands de certitudes se sont glissés jusqu'à ma lune, reprochant mon attitude. C'est pas très populaire le goût de la solitude. Depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Toutes les règles un peu truquées du jeton veulent te faire jouer les yeux bandés. Tous les rapaces du pouvoir menés par un gros clown sinistre plongent vers moi sur la musique d'un piètre accordéoniste. Je crois pas qu'ils viennent me parler des joies de la vie d'artiste. De l'autre côté, voilà qu'un toujours aussi lunatique. Son œil est rempli de sable et sa bouche pleine de verdicts. Il trône dans un cimetière de vieilles pelles mécaniques. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, là, 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 tu te demandes à qui ça sert. Toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut faire jouer les yeux bandés. Les gens disent que les poètes finissent tout tous trafiquant d'armes. On est 50 millions de poètes, c'est ça qui doit faire notre charme. Saturne, mon perroquet sonne l'alarme. C'est drôle mais tout le monde s'en fout. Vendredi tombant nulle part, y'a Robinson solitaire qui m'a dit je trouve plus mon île. Vous n'auriez pas vu la mer. Va falloir que je vous parle du thermonucléaire. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut faire jouer les yeux bandés.
Radio PFM, variation en noir, Jean-Patrick Capdevielle, quand t'es dans le désert. Il y a bien longtemps que nous n'avons pas écouté cette chanson et ce chanteur.
Oui, et donc, ouais. Hein.
Et donc j'aurais pu choisir. Alors il apparaît aussi plusieurs reprises dans le livre, puisque Loïc est assez fan de Jean-Patrick Capdevielle, mais bon, on aurait pu aussi passer les Rebets, Mike Brandt ou Michel Delpech. Et...
On va chanter ensemble Sugar Baby Love.
Voilà, c'est ça. Donc ça, Sugar Baby Love, c'est Anatole hein, qui est fan de cette... de cette chanson. Alors j'ai hésité, pardon, parce que...
T'as eu raison de choisir Capdevielle quand même.
Oui, hein. Parce que ça colle vraiment bien.
Oui.
On est dans un No Man's Land aussi, hein, dans ce roman L'horizon qui nous manque. Et j'ai hésité parce que ici à la radio, j'ai retrouvé un disque de Jean-Patrick Capdevielle un peu plus récent, même si il a quelques années, avec une chanson qui s'intitule Mine de Staline, qui aurait pu aussi être un joli clin d'œil à ce roman, parce qu'il y a le portrait de Staline qui apparaît.
Une photo sur un frigo.
Voilà. Alors, Hervé, donc on recommande bien entendu la lecture de L'horizon qui nous manque
de Pascal Dessin aux éditions de
Rivage. Alors, il nous reste que 3-4 minutes pour évoquer le dernier numéro de la revue 813. Un numéro, donc je le disais, 134, avec un dossier consacré à la guerre d'Algérie. Alors déjà, Hervé, la couverture, superbe couverture, illustration de couverture, Jacques Ferrandez, c'est un extrait d'une bande dessinée de Ferrandez ou c'est un dessin
Ferrandez a fait, on sait qu'il a... Il a fait des albums sur l'Algérie, il a fait des adaptations de romans de Camus d'ailleurs, c'est un dessin qu'il a fait pour 813.
Donc c'est un dessin, voilà, original.
C'est un cadeau de Jacques Ferrandez à 813, et voilà, c'est un très beau cadeau pour lequel il faut le remercier beaucoup. Voilà.
Bah oui, c'est vraiment, vraiment très, 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 très bien. Alors, le dossier, ça tombe bien parce que c'est un. Alors, Roger Elias et Hervé Delouche qui le présentent avec un article introductif, une mémoire noire qui passe en revue la production littéraire version roman noir par rapport à la guerre d'Algérie, d'une manière plus générale, hein, par rapport au colonialisme français en Algérie, et qui démontre qu'en fin de compte, c'est surtout cette littérature qui a parlé, notamment dans un premier temps, de la guerre d'Algérie, Hervé.
Oui, en tout cas, elle en a parlé assez tôt, comme on le dit dans l'article, à l'époque même où on est en pleine guerre d'Algérie, la fiction c'est pas la fiction qui s'en empare le plus, mais c'est des textes dont certains vont être censurés, saisis. Enfin bon, on connaît la question d'Alègue, le déserteur de Maurienne. Mais très vite, c'est assez amusant parce que c'est d'ailleurs un polar de la série noire, de la série des Gorilles de Antoine Dominique, Antoine Dominique, qui sous son vrai nom était un agent du SDES, hein, pour aller vite, et qui va, c'est dans le Gorille en Révolution, je crois qu'il va parler de 1958, de ce qui s'ensuit, de la guerre d'Algérie, du entre guillemets coup d'État gaulliste, enfin bon, etc. Et puis après, que ce soit évidemment à travers les figures des livres de Léo Mallet ou de Jean Amila, la guerre d'Algérie va être présente en fond, et notamment ses répercussions dans la métropole. Mmh. Et puis va venir évidemment dans la ligne d'une génération issue de ce qu'on appelle le néo-polar à partir des années 80. Le roman noir, ça on le constate, ne va pas cesser d'interroger la guerre d'Algérie et de mettre en scène ces enjeux, ces conséquences, tout bêtement parce que je pense que ces conséquences ont eu et ont toujours un écho énorme dans la société française. Voilà, il y a une plaie qui a été ouverte, pour reprendre ce terme, et donc, y compris les conséquences du colonialisme, au-delà des conséquences de la guerre elle-même. Et cet écho, on le retrouvait là. C'est pour ça qu'on a eu envie de faire cet article à ce moment-là, parce que il y avait l'écho d'un roman qu'on a chroniqué ici, hein, je crois, qui est le Requiem pour une République de Thomas Cantalou, oui. Mais aussi en abordant des points de vue très différents et des thèmes très différents, mais qui tous ont lien avec la guerre d'Algérie et avec ses conséquences. Il y avait le roman de Patrick Péchereau, celui de François Muratet, Frédéric Pollin, Adeline Mehdi, voilà.
Oui. Avec un focus aussi, Hervé, sur le roman d'Alice Zeniter, L'art de perdre, hein, chez Flammarion. Vraiment intéressant, un roman qui est sorti en 2017, qui a eu le prix Goncourt des lycéens, il me semble.
Oui, L'art de perdre, oui, tout à fait, tu as raison, qui est un roman qui raconte le destin d'une famille kabyle en Algérie, puis en France, sur des générations successives, et qui est un roman absolument magnifique. Oui.
Donc un dossier, moi j'ai trouvé vraiment remarquable, qui fait le tour de la question et qui donne bien entendu plein d'idées de lecture, hein, pour celles et ceux qui veulent se plonger dans cette période. Signalons aussi rapidement dans ce numéro un hommage à Andrea Camilleri, une rencontre avec Kent Anderson, un écrivain dont on reparlera sans doute dans Variations en noir, et puis
très volontiers, oui, absolument,
et plein de choses, plein de bien sûr de chroniques, les polaroïdes, et on en parlait en off avant de débuter l'émission, un mot croisé, les mots croisés de l'automne de Jean-Hugues Hoppel, et voilà, donc vraiment un numéro de 813 que je vous conseille fortement pour...
Oui, il y a aussi une très belle entrevue avec un écrivain espagnol que j'aime énormément, qui est Victor Del Arbol.
Tout à fait.
Et puis,
les 40 ans des éditions Métellier, là, une rencontre.
Voilà, complètement. Un retour aussi sur Shirley Jackson, cette écrivaine qui a écrit La Maison Hantée, Nous avons toujours habité le château, mais aussi des nouvelles. De la loterie et des nouvelles particulièrement qui reflètent bien le côté anxiogène de ce qu'était entre guillemets le rêve américain. Voilà.
Donc plein de choses très intéressantes. 813 numéro 134. Si vous voulez vous procurer cette revue, ben vous allez sur le blog, le site 813. Vous trouverez comment faire pour se procurer cette revue. C'était Variation en Noir dans Variation, le dernier vendredi du mois, une émission de radio PFM réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, en particulier avec Hervé Delouche. Hervé, au revoir.
Bien, au revoir Guy, très bientôt et bonne lecture à tous.
Voilà, rendez-vous donc dans un mois pour de nouvelles Variations en Noir.